Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Colombie, deuxième partie. Louise nous fait faire le tour de la maison. C'est génial parce qu'il y a des chambres pour tout le monde. Bien isolées, chacun son coin, deux salles de bain, une cuisine bien équipée, un séjour cathédral avec deux canapés, incroyable, une terrasse magnifique avec des hamacs. Et en fait, ça donne sur tout le terrain de la finca. Et ce terrain, il est immense. Sa particularité, c'est que c'est un grand verger et il y a plein d'arbres fruitiers sur le terrain. Et Louis, il passe une heure à nous faire faire le tour de la propriété parce que lui, il entretient toute cette végétation et c'est lui qui s'occupe des arbres fruitiers. Donc, il y a des avocatiers, mais il y a plusieurs sortes d'avocats, plein d'agrumes, que ce soit des oranges, des mandarines, des citrons, des bananes évidemment. Et puis, il y a également des fleurs. Et Louis, on découvre qu'il est aussi artiste à ses heures perdues. Et il a personnalisé la maison, il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur, il a dessiné des fresques, il a fait des sculptures autour d'un bassin à poissons dans le jardin. Il est incroyable et il nous montre même le barbecue qu'il a fabriqué avec un tambour de machine à laver suspendu. En fait, c'est hyper pratique, ça marche bien, on va le tester, mais c'est surtout que c'est joli quoi. Enfin, on fait une super rencontre avec Louis, on se sent vraiment en confiance et on sent qu'on va pouvoir se reposer, se relaxer dans cette maison. Pendant les deux premiers jours dans cette maison, on ne bouge pas. Il y a vraiment une envie de se poser. Et d'ailleurs, les filles, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles investissent la cuisine. Et elles vont essayer de cuisiner des pancakes. Soit elles regardent des tutos sur Internet, elles nous font un granité à la banane parce qu'il y a un blender, il y a un frigo, il y a un congélo. Enfin, il y a pas mal d'ustensiles et elles en profitent pour cuisiner tout un tas de choses. Et je pense que c'est assez étonnant de voir comment elles se réapproprient des repères au travers de la cuisine et le fait de se faire elles-mêmes, enfin le fait qu'on se fasse nous-mêmes les repas et qu'on ne dépende pas d'un service extérieur, d'aller au restaurant, de devoir aller acheter de la nourriture dehors. Elles sont à fond de créativité aussi, mais ça c'est quelque chose qu'elles font dès lors qu'on se pose quelque part pendant le voyage, pendant quelques jours. Elles étalent toutes leurs affaires sur la table, feutres, crayons, ciseaux. On va acheter de la colle en ville parce qu'elles font des collages. Swan, elle fait beaucoup de bracelets brésiliens avec des formes particulières qu'elle a regardées aussi sur Internet. Enfin, c'est des moments où, quand elles se posent comme ça, elles vont vraiment prendre le temps de sortir toutes leurs petites affaires et de faire des choses de leurs mains. Évidemment, ce sont des moments propices pour avancer sur le homeschooling. Là, on est fin juin, il nous reste 5 semaines maintenant avant de rentrer. Et nous, on s'est mis comme objectif de finir l'année scolaire le 14 juillet, parce que c'est là qu'on va retrouver nos copains Sophie et Alex avec leurs enfants. Et on veut être complètement libérés des obligations de devoirs. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a du Wi-Fi qui fonctionne très bien. Et donc, ça nous permet à chacun de se reconnecter aussi avec la France, commencer un petit peu à reprendre les liens, préparer le retour. Daniel, il est en lien avec les locataires de notre maison pour pouvoir préparer la sortie de la maison et puis pour nous la rentrée au mois d'août. Et puis bien sûr, on contacte les familles, les copains. Et Swan, ça lui fait beaucoup de bien. Elle passe pas mal de temps en WhatsApp avec ses copines. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle est en contact en particulier avec Prune. C'est la fille de nos copains qui font aussi un tour du monde en même temps. Et ça lui fait du bien parce qu'elles sentent qu'elles ont des discussions vraiment connectées, elles ressentent les mêmes choses et elles vivent le même type de sensations en voyage, avec les avantages et les inconvénients. Et pour elles, c'est une façon de pouvoir partager cela avec quelqu'un qui vit exactement la même chose. Nous aussi, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir être en lien avec Thibaut et Laure pendant tout le voyage, parce qu'on se sentait peut-être moins seul dans la façon de vivre les choses. Un voyage au long cours, c'est quand même quelque chose de très spécial. Pas au début, on se sent plus en vacances, mais plus ça avance, plus on rentre dans une dynamique particulière. Et je pense que seuls les gens qui ont réalisé des voyages au long cours peuvent comprendre ce que c'est en termes de vécu. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup liés et soutenus quelque part à distance pendant le voyage. On a bien sympathisé avec Louis qui vient nous voir tous les matins. Il prend un café ou il vient papoter avec nous. C'est sympa. Il nous montre d'ailleurs comment il réalise son propre café parce qu'il y a des plants de cacao sur la propriété. Donc il nous montre tout le process. Alors c'est artisanal, hein, c'est du café qu'ils ne revendent pas, c'est pour leur consommation personnelle. Mais c'est super intéressant. Et puis, au bout de 2 jours, là, on décide qu'il est temps de faire bouger un petit peu les enfants. Alors, elles ont pas mal bougé parce que sur la propriété, il y a un vieux court de tennis et des paniers de basket sur ce court de tennis. Donc, Louis a sorti toutes les raquettes, balles inimaginables. Donc, les filles se sont pas mal amusées sur ce terrain. Mais on se dit, on est en pleine montagne, il faut qu'on aille randonner un petit peu. Donc, on emmène les filles pour une rando. On laisse Swan par contre à la maison parce qu'elle a beaucoup de travail, des devoirs à rendre. Elle est un peu en décalage par rapport à ses sœurs qui sont plus en avance sur le programme. Et ben, c'est normal, elle est en quatrième. Donc on l'autorise à rester à la maison pour travailler, ce qui rend les deux petites sœurs complètement folles de jalousie. Et nous voilà partis pour une marche où Louis nous accompagne pour nous montrer le sommet de la montagne. On fait une rando jusqu'à la grande croix qui est plantée là-haut. Bon, déjà, les enfants n'arrêtent pas de râler, mais alors encore plus que d'habitude. Et c'est vrai que le chemin, il est vite très escarpé. On arrive à faire l'ascension en 1 heure, mais on fait 400 mètres de dénivelé. C'est quand même très raide. Et les filles, elles sont au bout de leur vie quand on arrive là-haut, psychologiquement parlant. Elles sont rouges, essoufflées. D'une, elle se met à pleurer, elle craque, elle nous fait la crise de... J'ai pas envie de marcher et je suis trop jalouse que ma sœur soit restée à la maison. Bon, avec Daniel, on est quand même content parce que la vue est belle là-haut et puis ça fait de l'exercice. On a besoin de ça, on a besoin de se dépenser. On a pris cette habitude de marcher énormément tous les jours. Donc ça nous remet en dynamique. Mais c'est vrai qu'on commence à sentir de la part des enfants une forme de lassitude et moins d'engouement en tout cas à aller randonner. Alors c'était pas extraordinaire déjà au départ, mais là on sent qu'elles ont mis les freins de manière assez forte quoi. On est tellement bien dans cette finca qu'on a envie de passer un petit peu plus de temps dans ce cocon. Et comme on est libre, c'est-à-dire qu'on a une voiture de location, qu'on est autonome, qu'on n'a pas trop défini la suite du programme, à part les grandes étapes d'itinéraire. Bah, on se dit qu'on va essayer de rester une nuit de plus. Donc, je vous demande à Louis si c'est possible. Il me met en contact avec la propriétaire et en fait, il me dit le plus simple, c'est de l'appeler. Donc, il l'appelle et moi, je me retrouve complètement bloquée parce que bah, l'espagnol, je commence à m'améliorer, mais c'est pas encore ça. Et finalement, j'ai cette conversation avec cette dame, donc c'est en haut-parleur. Et puis, on se fait comprendre, enfin, je me fais comprendre. Louis aussi a compris, on se met d'accord sur un tarif pour une nuit supplémentaire qu'on paiera en cash à Louis. Et on raccroche et c'est parti pour 2 jours de plus dans cette ferme. Et là, je dois dire que je commence à être assez fière parce que je me dis, ben, moi, je suis partie avec un niveau d'espagnol zéro. Là, ça fait allez, presque 5 semaines qu'on voyage en continent d'Amérique du Sud et je me débrouille pas mal. La formule voiture de location et Airbnb nous convient bien, donc on réserve un autre Airbnb au prochain arrêt dans la ville de Salento, qui est dans ce qu'on appelle la vallée de la Cocora, qui est une vallée où il y a beaucoup de cultures de café et où il y a une particularité, ce sont des palmiers qui produisent de la cire, on les appelle les palmiers de cire, qui sont extrêmement hauts, qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres de hauteur. Le trajet est assez long, même très long par rapport à la distance. Et surtout, ça commence bien parce que Daniel décide de prendre un raccourci par rapport au trajet qui est indiqué sur Waze. Et on passe par la montagne. Et en fait, on se retrouve sur un chemin, donc non goudronné, qui est pas mal caillouteux, cabossé. Nous, on a une Logan, hein, c'est notre voiture de location. Donc autant dire que ce n'est pas un 4x4. Et là, on a à peu près 15 km à faire sur cette piste, avant de rejoindre un pont suspendu en métal qui est plus que douteux et reprendre la route principale. Et là, moi, j'apprécie pas trop la beauté du paysage. Alors, c'est vrai qu'il y a des points de vue qui sont magnifiques. On voit des montagnes enneigées au loin. Mais alors, je me dis, si ça se trouve, à un moment, on va se retrouver bloqué parce qu'on n'a pas de 4x4. Il va falloir faire demi-tour. Donc, le chemin est quand même assez étroit. Et reperdre le temps dans l'autre sens. Bon, on y arrive au bout d'une heure et demie avec un Daniel qui est là. Je t'assure, je suis sûre, ça va le faire, t'inquiète pas. Là, moi, je commence à être un peu agacée. Et quand on retrouve la route principale, je me sens vraiment soulagée. Bon, pour un temps qui est court parce que la circulation est assez dense, les gens conduisent n'importe comment, ça double beaucoup. Et il y a de tout sur la route. Il y a des énormes poids lourds qui remontent vers le nord de l'Amérique du Sud, des voitures, des motos, des vélos, et puis également des ânes avec leur chargement. Donc tout ça, c'est un joyeux bazar. Et puis il y a autre chose qu'on découvre, c'est que comme on est sur cette voie principale et unique dans les montagnes, qu'empruntent tous les poids lourds pour emmener leur cargaison et faire monter en Amérique du Nord. Eh bien, ils s'arrêtent régulièrement pour prendre un café ou acheter à manger, et pour ce faire, ils s'arrêtent en plein milieu de la route. Et ces moments-là, ben, ça coupe la circulation pendant 3, 4, 5, 6 minutes, et ça semble ne poser problème à personne. Et voilà, dans la voiture, on sent qu'il y a une atmosphère un peu bouillonnante. Daniel, il a du mal à comprendre que c'est dans la culture et la patience d'attendre que les types aient pris leur café, lui, ça commence vraiment à l'énerver. On arrive à notre point de destination au bout de 7 heures de trajet pour faire 200 km. Donc là, on comprend mieux que notre moyenne horaire en Colombie, ça sera entre 30 et maxi 40 km/h pour les distances. Et on arrive chez Roberto et Béatrice, qui sont un couple d'une soixantaine d'années et qui nous ouvrent et nous accueillent dans leur restaurant. Alors, c'était un restaurant avant le Covid. Restaurants qu'ils ont dû fermer post-Covid parce qu'ils n'avaient pas assez de touristes et de clients. Et ils habitent une ferme à 200 mètres à pied où ils cultivent le café. Après le Covid, n'ayant plus de clients, Béatrice et Roberto ont reconverti ce restaurant en Airbnb en reconfigurant 2 pièces qui étaient attenantes à la salle principale de restauration et de la cuisine en chambres. Donc il y a deux chambres, une cuisine ouverte sur la grande salle de restauration, qui est sympa parce que c'est dans une coupole en bois avec une vue à 180 degrés sur la vallée. Ils sont tous les deux très charmants et nous inviteront même à passer prendre un café à leur finca. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont partis et qu'on s'installe, on se rend compte de l'inconvénient du lieu, c'est qu'on est en bord de route et c'est très bruyant, très passant, aucune insonorisation du restaurant. Et puis l'autre point, c'est que la cuisine, elle est mais pas du tout équipée. Mais quand je dis pas du tout équipée, il y a à peine assez de couverts, de fourchettes par exemple, pour nous cinq. On est un petit peu refroidi, mais en même temps, ils sont tellement gentils, tellement charmants qu'on se dit, bah, on va prendre notre mal en patience et s'adapter une fois de plus. En termes de durée de séjour, on continue à appliquer la formule qu'on applique maintenant depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire passer au moins 3 nuits au même endroit. En fait, le minimum de 3 nuits, ça permet de déballer un petit peu les sacs et de les repaquer sans avoir l'impression d'être là en courant d'air. Les enfants, ça leur permet de se poser. Elles nous ont dit que voilà, 3 nuits au même endroit, ce serait un minimum. Et puis, ça permet en Colombie, en tout cas, de prendre en compte le fait que la circulation est compliquée. Donc, d'arriver le soir dans un endroit, de dormir une première nuit, d'avoir 2 journées pleines sur place et de repartir le troisième jour au matin pour affronter le temps de trajet et les conditions de circulation. Salento, c'est une destination qui est très touristique et qui attire aussi beaucoup de touristes locaux. Et nous, on décide de ne pas faire les choses touristiques, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'activités qui sont organisées. On peut aller en vieille Jeep ancienne jusqu'au lieu de départ des randonnées pour aller admirer les palmiers. Il y a des randonnées qui sont guidées, des randonnées à cheval. Bon, nous, on prend notre voiture de location, on y va et on part faire la randonnée. Alors c'est très joli, on a beaucoup de chance parce qu'il fait beau, mais par contre il y a une énergie de ralenti dans le groupe qui est assez présente. Et là on sent vraiment que nos 3 filles, la rando en fait, elle commence à ne plus supporter ça. C'est vrai aussi qu'on a usé de pas mal de subterfuges ou de techniques sur on y sera bientôt, quand on sera là-haut, on pourra boire un coup, ou vous verrez, la vue est magnifique. Et bah, ça n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc là, elle commence à en avoir assez de nous entendre répéter les mêmes choses. Et de manière plus globale, on sent qu'elle commence à en avoir assez de voyager. En plus, au niveau hébergement, June et Violette, elles sont pas bien installées. D'ailleurs, elles me disent qu'elles dorment pas bien, qu'elles se sentent pas bien. Alors, c'est une atmosphère qu'elles ressentent dans cette chambre. C'est tout petit, il n'y a pas de fenêtre. Les lits superposés, ils sont sur le point de s'écrouler. Enfin, elles sont pas bien. Et donc, on essaye de remettre un petit coup de boost dans l'équipe familiale en les emmenant faire une partie de mini-golf, parce que oui, au milieu de nulle part, dans la vallée près de Salento, il y a un mini-golf qui est tenu par des Anglais, il me semble, ou des Américains. Et il n'y a personne, et nous, on prend un ticket avec Daniel, on se boit chacun une bière, et les filles vont se faire plusieurs tours de mini-golf, et elles sont super ravies. Vu l'humeur collective liée aux conditions d'hébergement, et puis ce côté négatif porté par les enfants qui commencent à fatiguer, à tirer la langue du voyage, je me dis, il faut absolument que je trouve un logement super chouette à Hardin, qui est notre prochaine étape dans 2 jours. Et donc là, je passe un temps fou sur Booking à essayer de trouver le logement qui ait les meilleures appréciations en termes de confort, d'accueil, de situation géographique, enfin, pour que ça coche toutes les cases. C'est comme ça que je trouve une maison dans Hardin avec suffisamment de chambres pour tout le monde. Une cuisine qui a l'air pas mal équipée. Je sais qu'il y a un jardin à l'extérieur qui est sympathique. Et surtout, c'est dans le village de Hardin, mais à quelques minutes à pied de l'hypercentre. Ça veut dire qu'on va pouvoir tout faire à pied et en même temps pas être dans la cohue, la musique, la fiesta du centre-village, ce qui est le cas partout en Colombie. Le trajet vers Hardin nous fait presque regretter d'avoir pris une voiture de location parce qu'on se heurte à énormément d'obstacles. Pour commencer, au bout d'1 heure de route, on réalise via des panneaux d'affichage que ces jours-ci, il y a le Tour de Colombie, donc à vélo, qui se déroule et qu'on est aujourd'hui sur une étape. En fait, le trajet qu'on va faire en direction de Rardin, ça correspond à une des étapes de ce tour de Colombie. Donc, on fait demi-tour à un péage qui est bloqué, on demande notre trajet à un policier et lui nous oriente vers un autre accès de route rapide. Mais il nous explique que quoi qu'il arrive, la route va être fermée pendant à peu près une heure et demie. Et comme il le dit si bien, más o menos, ça veut dire plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose qu'on entendra beaucoup concernant les temps de trajet. Ensuite, comme on est sur cette route unique qui relie le sud de l'Amérique au nord, via la Colombie, et bien on se retrouve avec énormément de circulation. Et puis il y a eu des éboulements, des travaux, et donc la circulation est alternée. Pour nous, Français, la circulation alternée, c'est un feu clignotant, et puis une alternance de 1, 2, 5, peut-être 10 minutes, en fonction de la nature des travaux. Alors en Colombie, c'est pas ça. C'est que la route peut être fermée dans un sens pendant une heure et demie, voire deux heures, puis elle est coupée et réouverte dans l'autre sens. Donc en fait, ça crée des embouteillages de l'espace.
C'était pas plutôt 7 heures de route ?
Non, 6 heures de route, 120 km. On y est encore, on a encore 120 km à faire. Il est 16h, on va essayer d'arriver avant la nuit.
On est parti à 10h.
Donc après avoir attendu une heure et demie suite au passage du tour de Colombie à vélo, on est bloqué par deux fois environ une heure et quart pour ces histoires de circulation alternée. Et on finit un moment par faire une erreur d'orientation en termes de circulation. On prend une mauvaise route, on fait demi-tour et là on se retrouve coincé à un carrefour pendant deux heures et demie. En fait, l'heure a tourné et on s'aperçoit que c'est la fin de la fameuse étape du Tour de Colombie et on voit passer toutes les caravanes, donc tous les cars ou les vannes avec les vélos, tous les équipements et les équipes cyclistes qui se rendent au départ de la prochaine étape. Et ils ont bloqué la circulation pour ça, en plus des travaux. Et donc on se retrouve bloqué à ce carrefour dans l'incapacité complète de bouger notre véhicule. Le problème, c'est qu'on est dans une ville qui est assez passante et la nuit est en train de tomber. J'avoue qu'on n'est pas très très à l'aise avec la faune, les gens qui circulent autour de la voiture. Ça crie dans tous les sens. C'est pas très rassurant. Et puis forcément, au bout d'un moment, les enfants ont envie d'aller aux toilettes. Donc il y a une station essence en face. Moi, je prends les deux petites, je les emmène faire pipi. Et puis je vois qu'au comptoir de la station essence, ils vendent aussi des empanadas, un peu de nourriture à emporter. Donc je fais le plein parce qu'il est déjà 19h, 19h30. Donc bien sûr, on est largement en retard par rapport à l'heure à laquelle on avait dit qu'on arrivait au Airbnb. Et puis ensuite, Daniel et Swan font la même chose. Alors on se dit, si ça redémarre, je redémarre la voiture et je bouge. Mais on se dit, on espère, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Parce que si on bouge, après, on ne sait pas où on va pouvoir se mettre pour récupérer le reste de la famille sans se retrouver à nouveau bloqué pendant des heures d'embouteillage. Là, moi, j'expérimente quelque chose qui m'était jamais arrivé auparavant, en tout cas en lien avec la circulation. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'ai envie de tout casser autour de moi. Et en même temps, je sais que je n'ai pas la solution, qu'on ne peut rien faire sauf attendre. Et c'est terrible comme sensation. Les filles, elles m'impressionnent. Elles font des jeux, elles dessinent, elles font des bracelets, elles regardent ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas un moment où elles disent qu'elles n'en peuvent plus. Donc, moi, je me tais parce que je me dis, je ne peux pas exprimer ce que je ressens profondément. Je vais mettre la colère dans cette voiture alors que chacun gère pas trop mal, j'ai l'impression. Ça finit par se débloquer, on redémarre et après une dernière heure et demie de voiture, on arrive, je pense, vers 21h30 à la maison de location et on est accueilli par Ariadna, qui est une femme absolument charmante. Dans une maison qui est très grande, confortable, et là on se dit « Waouh, on va être bien pour compenser cette journée de dingue !» Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un Petit Tour et puis Changeons. Ça vous a plu ? venez écouter l'épisode 34 sur la suite de notre road trip en Colombie. À bientôt !